Ah bah la patron m'a convaincu.
Ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Quelle est votre principale motivation ?
Chasser en recrutement. Action de contacter un candidat pour lui proposer une opportunité professionnelle. Pourtant, on voit trop souvent des retours comme
« Oh, encore un recruteur ! Il a vraiment rien compris à ce que je fais, lui !»
Salut, je suis Stan, recruteur chez Manify, et vous écoutez « Écrire pour recruter », le podcast sur l'approche candidat de l'agence de recrutement et Manify. Une vingtaine de minutes, un expert et un conseil concret pour améliorer tes messages d'approche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Mélissa Saint-Louis. Mélissa est fondatrice de l'agence Candéa et animatrice du podcast « Les neurodivertissantes ». Spécialiste en marketing RH, on discute en fait de comment écrire un message qui te ressemble. C'est simple, que tu sois recruteur qui contacte directement un candidat ou alors une entreprise qui rédige des affichages de poste, tu sais, avoir les mots, une ligne éditoriale qui soit cohérente avec qui tu es et tes valeurs peut vraiment t'apporter énormément d'avantages. Et justement, avec Mélissa, elle va nous montrer comment le faire. Salut Mélissa, un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Ben, merci pour l'invitation, je suis vraiment heureuse d'être dans un autre podcast que le mien.
Super. Et Mélissa, c'est quoi ta technique, ton meilleur conseil pour contacter un candidat?
Oui, ben j'y réfléchis, puis je pense que ce que j'aimerais apporter à la table, c'est vraiment de changer le mindset du recrutement, puis de ne plus voir le candidat, la candidate telle qu'elle, mais de les voir comme des clients. Puis d'accord. Je pense qu'avec ce changement de mindset-là, on est capable d'aller chercher beaucoup plus. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? Mais c'est parce que, en fait, c'est tout ce qui est une action de recrutement dans son processus de recrutement en lien avec sa marque employeur, mais toutes ces actions de recrutement-là, techniquement, c'est toutes des actions de marketing RH. Puis quand on parle marketing, on doit se mettre dans un mindset de comment est-ce qu'on veut marketer aux clients. Bon, ben là, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on veut marketer l'emploi qu'on a à combler aux yeux des bassins de candidats potentiels?
OK. OK, je vois. Donc, c'est quoi un peu les conséquences, justement, si on adopte ce mindset-là? Maintenant, mon candidat, c'est mon client. Ça va être quoi un petit peu les conséquences de cette nouvelle vision?
Bien, c'est vraiment un changement de paradigme en soi parce qu'on veut arrêter de se mettre dans la position où le rapport de force est du côté de l'employeur. En fait, c'est qu'on va ramener le rapport de force du côté du candidat parce que le candidat, il a le choix. Avant, c'était les employeurs qui avaient le choix. On passait à travers toutes les CV. Puis là, je remonte pas si longtemps que ça. Là, tu sais, je te parle d'il y a 10 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est absolument le contraire. C'est les candidats qui doivent passer à travers plusieurs affichages de poste pour choisir celui qui leur correspond le mieux, celui qui va le mieux répondre à leurs besoins, tant au niveau de la rémunération qu'au niveau du développement de soi, du développement professionnel, de l'atteinte de son « why », de la cohérence avec ses valeurs. Fait que de modifier son message, puis de... au niveau du mindset, justement, de voir son ATS, qui est son système de gestion des candidatures, comme un CRM, de le voir comme une façon de gérer des clients, de voir, de se dire que le... Tu sais, j'ai fait un post là-dessus là, cette semaine, puis il a vraiment bien pogné, mais tu sais, de dire avant, on disait au candidat, arrange ton CV pour qu'il soit clair, concis, attrayant, puis modifie-le selon les besoins du poste pour que ça ressorte parce que le recruteur, il a juste 30 secondes pour lire ton CV. Là, c'est le contraire. Là, c'est de dire aux employeurs, écoute, il faut que ton affichage de poste soit concret, clair, précise, attrayante, que tu la customises selon les besoins de ton bassin de candidat potentiel parce qu'ils ont juste 30 secondes pour la lire. C'est vraiment ça.
Les forces ont totalement changé entre les deux. Donc, avec là, ça m'intéresse, on va parler vraiment marketing. Avec ce nouveau mindset-là, donc, tu sais, il y a des techniques qui en découlent justement de voir ton candidat finalement comme un client. C'est quoi un petit peu ces techniques plus précisément?
Oui, bien, au niveau des techniques, tu sais, si on regarde à deux niveaux plus précisément, si on commence avec le sourcing, parce que là, au niveau du recrutement et la marque employeur, tu sais, la marque employeur, c'est quand même un effort de tous les jours, constant, sur une longue période de temps qui peut être très itérative, mais c'est un investissement en soi. Fait que quand on est en mode réactif, on va aller vers des actions qui rapportent rapidement. Donc, on est beaucoup dans le sourcing en ce moment. On a beaucoup de sourceurs, de recruteurs qui vont à la pêche, envoient des messages à des candidats potentiels. LinkedIn fait beaucoup d'argent avec ça en ce moment. C'est une business très lucrative, mais le sourcing, puis je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ont ce mindset-là, mais de comprendre que du sourcing, c'est du cold call. C'est exactement la même chose que de faire du cold call auprès d'un client. Puis de penser, OK, si je me faisais approcher par quelqu'un qui voulait me vendre un service, est-ce que je voudrais qu'il me contacte de façon très protocolaire et je suis un employeur et tu sais, je suis un fournisseur de services et je souhaite vous dire que je souhaite vous offrir. Tu sais, il y a ce lien-là à aller faire puis de dire, bon, ben OK, comment est-ce qu'on peut aller optimiser son sourcing en mode réactif pour ne pas brûler des banques de candidats, pour ne pas avoir l'air désespéré, pour développer des relations. Tu sais, quand on parle beaucoup du développement des affaires, d'aller chercher des clients, on va parler de bâtir des relations d'authenticité, d'apprendre à connaître les personnes. Là, c'est la même chose. Puis la problématique, je pense, qui arrive, c'est qu'on a tellement des gros volumes à aller chercher qu'on y va en mode mitraillette avec des messages très génériques en disant, OK, si j'ai un 10% qui répond, je vais être content. Mais est-ce que 10%, c'est vraiment le bon chiffre à vouloir atteindre, par exemple? C'est genre, j'ai des chiffres comme ça. Mais de réajuster puis de dire, bon, ben premièrement, est-ce que mes funnels de recrutement, ils sont assez concis? Donc, est-ce que je suis capable d'aller assez bien cibler mes candidats dans des différents... Dans des funnels de... C'est les projets, en fond, dans LinkedIn, quand on fait du recrutement, mais d'aller dire, bon, ben je vais aller chercher ce type de candidat-là pour ce type de profil-là, puis je vais avoir un message quand même assez... assez standardisé, mais qui a une saveur assez sur mesure pour pas avoir l'air trop à haut niveau. Fait qu'on est quand même en mode mitraillette, mais un peu plus précis. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis pas que je veux nécessairement faire une analogie avec justement des armes, là, mais tu sais, quand on pense au film John Wick, que j'aimais ouais. beaucoup le premier, tu sais, il était pas en train de mitrailler à gauche puis à droite, là, il était très tactique dans sa façon de cibler puis d'utiliser ses façons de contre-attaquer, fait que de se mettre vraiment en mode OK, je cible, puis j'y vais de façon concrète, puis de dire OK, à l'intérieur de ça, comment est-ce que mon message peut sembler le plus personnalisé possible sans parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps de les écrire à la mitaine pour chacun des candidats, c'est absolument impossible. Donc, écrire un message de façon épicène, puis là, je ne dis pas d'utiliser des doublets ou de l'écriture tronquée, mais vraiment épicène en se disant OK, que ce soit un homme ou une femme qui lise. Ou quelqu'un de non-binaire, tu sais, ça peut être n'importe où dans le spectre des identités de genre, que cette personne-là se reconnaisse dans ce message-là. Si on n'est pas capable de l'écrire de façon épicène, c'est de dire, OK, je vais peut-être me faire un gabarit homme, un gabarit femme, puis déjà, cette petite modification-là peut faire toute la différence. Après ça, avec le point d'entrée, tu sais, dernièrement, j'avais donné un coup de pouce pour du sourcing, puis ce qui marchait bien pour de vrai, puis c'est vraiment un petit truc. Tu sais, on est dans une société quand même très multiculturelle, puis on peut apprendre des langues qui sont en dehors de ce qu'on utilise régulièrement, qui est l'anglais puis le français. Puis bon, mais tu sais, moi, mon mari est portugais, j'ai appris le portugais par la bande. Fait que quand je tombais sur des candidats qui venaient du Brésil ou qui étaient portugais, j'en disais hey, bon dia. Tu sais, ou beau tard. Fait que juste l'ouverture, puis après ça, tu sais, ces personnes-là me répondaient plus rapidement. De demander aussi dans la discussion, tu sais, de l'ouvrir de façon plus authentique, un peu comme un ami, comme être quelqu'un de curieux par rapport à ce que la personne souhaite, elle, pour son développement de carrière. Tu sais, on se met en posture de, bon, ben moi, comme recruteur, qu'est-ce que je peux t'offrir pour ta carrière? C'est ça le shift, hein? C'est pas d'aller dire, bon, ben je viens te chercher ton temps, et ton implication, je viens t'offrir quelque chose qui va peut-être t'aider à évoluer dans ta carrière en fonction de où tu veux te rendre. Fait que c'est un peu mes grandes lignes par rapport au message d'approche. Puis là, j'ai l'impression que je suis partie sur une tirade, là, mais...
non, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Il y a plein d'informations. Pour rebondir sur... Pareil, tu sais, sur LinkedIn, justement, ils précisent les langues que les candidats précisent, les langues qu'ils parlent. Mm-hmm. Et à chaque fois, c'était ça, c'était, tu sais, que ça soit comment dire, en espagnol, en anglais ou de quoi, tu sais, d'adapter des fois la langue. Tu sais, moi-même, je viens d'une île, donc, tu sais, quand je vois des personnes qui venaient de cet endroit-là, tout de suite, ça se connecte beaucoup plus facilement, tu sais. Mm-hmm. Et là, en fait, ou surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, en mettant en pratique ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on travaille sur la perception du candidat, de mm-hmm. ce que je vois, de se positionner vraiment comme quelqu'un qui est là pour l'aider. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un peu plus en profondeur avec toi. Comment justement écrire des messages où, on va dire plus humains en fait, tout simplement qui nous ressemblent beaucoup plus pour en fait justement agir sur la perception du candidat et que le candidat nous voit simplement comme un humain qui a mm-hmm. une proposition à lui faire, une opportunité à lui donner et qui veut tout simplement l'aider.
Mais non, puis c'est une excellente question. Puis tu sais, justement, par rapport à ça, quand on pense au mode mitraillette ou au mode très uniforme du message qu'on envoie, ben il y a des éléments qu'on vient perdre. Donc, par exemple, tu sais, la personne, je donne un exemple vraiment très basique comme ça, mais si la personne, son profil LinkedIn n'est pas super détaillé, mais ça semble correspondre, puis que là, on envoie un message du genre je suis tellement impressionnée par ton profil puis ta grande expérience professionnelle puis tu sais que t'en mets pour vouloir dire ben tu sais je te flatte dans le sens du poil et je veux que tu me répondes parce que je te donne un compliment. Il y a comme un disconnect entre le message qui est envoyé versus le niveau d'information du profil versus le on se connaît pas là. Fait que tu sais d'ouvrir ça je pense d'une façon un peu plus c'est bonjour. Tu sais, je me présente, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu reçois peut-être beaucoup de messages, mais j'ai cru comprendre dans ton profil que ça peut-être correspondre à ce que moi aussi je recherche. Est-ce que tu serais ouvert à voir si justement les postes que j'ai ouverts te permettraient d'atteindre tes ambitions professionnelles ou est-ce que tu es peut-être déjà. Tu sais, dans d'autres messages que je peux envoyer, ça va être par exemple la personne est déjà en emploi. Bon, ben, comment ça va? Écoute, je cherche des personnes pour mon équipe. Dis-moi, je sais que tu es peut-être déjà très heureux chez ton employeur, mais si c'était pas le cas à ce moment-là, peut-être que ça tenterait qu'on discute, voir si ça correspondrait plus. Fait que de prendre en considération l'état, le statut de la personne, puis de dire, bon, ben, tu sais, s'il est en emploi, on sait qu'il est peut-être heureux, puis ça veut pas dire qu'il a envie de changer, mais c'est des perches qu'on tend, puis que la personne, un jour, quand elle va vouloir changer, on veut qu'elle se rappelle qu'on était là, puis qu'elle ait le réflexe de se dire, hey, cette personne-là, quand elle m'a écrit, ça semblait authentique, elle semblait pas un requin du recrutement. Puis, il me semble que j'aimerais ça voir ce qu'elle aurait peut-être à m'offrir aujourd'hui, même si ça correspondait pas. D'offrir une entrevue exploratoire, si jamais on dit, ben, tu sais, je cherche tel type de poste, mais si ça correspond pas, il y a peut-être d'autres opportunités, puis j'aimerais ça peut-être savoir si ça t'intéresserait qu'on se parle un 30 minutes pour que je comprenne mieux c'est quoi tes ambitions, puis que je puisse peut-être te revenir avec quelque chose de plus ciblé, donc de développer ces relations-là, de dire, tu sais, si ça correspond pas, mais que tu connais quelqu'un qui serait intéressé, tu sais, hésite pas. Si la personne répond non, je suis pas intéressée, OK, ben bon succès dans ta recherche d'informations, dans ta continuité, dans ton emploi, puis si un jour tu ressens le besoin de vouloir changer, ben t'sais, pense à nous, on va être là, puis fais juste revenir vers moi. Fait que juste de toujours garder les portes ouvertes comme ça, mais en tenant compte de la situation et des réponses du candidat, c'est sûr que ça demande un peu plus de temps, mais t'sais, si la personne dit non, je ne suis pas intéressée, combien de personnes vont juste ghoster, faire comme ah, ben, pas intéressée, fait que je n'y réponds pas nécessairement, ou parce qu'on en envoie tellement, puis c'est jamais de la mauvaise foi, puis je pense que tous les recruteurs rentrent dans le métier en se disant. Je vais changer le monde et faire des matchs parfaits. Là. Fait qu'il y a jamais cette mauvaise volonté-là. C'est vraiment le volume qui fait que c'est difficile à tenir.
Ouais, totalement. Je rebondis parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant sur le fait d'impacter positivement ton candidat quand tu le contactes, quand tu le contactes en justement mettant en avant un petit peu ta personnalité. Et tu sais, des fois, c'est bête, mais quand deux personnalités matchent, tu sais, tout de suite, il y a de la sympathie qui serait. Ça m'est arrivé très souvent, moi, que finalement, le candidat que j'ai contacté ne soit pas intéressé par le poste que je lui propose. Mais, j'ai tel ami ici, là, qui, je sais, il est dans sa job et peut-être il s'ennuie un peu. Ton offre pourrait l'intéresser, tu sais. Et c'est finalement comme ça que tu vois qu'on déparpille un peu notre réseau, que les candidats deviennent, si tu les impactes positivement, un peu des ambassadeurs de ton poste pour lequel tu les as contactés. Et du coup, ça permet un peu d'optimiser, tu sais, bah, ton recrutement, tout simplement, et toucher plus de personnes. Il y avait une question que je voulais absolument te poser. On a eu l'occasion de discuter pendant la semaine. Comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi, bah justement parce qu'on parle de nos personnalités, est-ce que c'est une bonne idée de mettre de l'humour, par exemple, dans nos différents messages d'approche?
Ben, écoute, l'humour, je l'avais apporté plus au niveau des affichages de postes, tu sais, quand on parle des actions qu'on peut faire en marketing RH ou en recrutement. Je pense que t'sais, le in-mail est encore considéré comme une approche courriel traditionnelle. Donc, on ne sait pas qui est notre interlocuteur devant nous. C'est nous qui allons vers la personne. Donc, c'est d'être...
C'est plus délicat, ouais.
C'est plus délicat, puis tu veux pouvoir ajuster ton message en fonction du type de réaction que tu reçois. Encore là, ça dépend aussi de... du type de recrutement que tu fais. Tu sais, je me dis, bon, ben, une firme de recrutement versus un employeur, peut-être que tu veux te servir de ton message d'approche pour écrémer en partant aussi, c'est pas impossible. Mais quand on parle du sourcing de façon plus globale et générale, le but n'est peut-être pas nécessairement toujours d'écrémer dès le départ. Puis une approche humoristique, ben, pourrait écrémer si la personne ne s'y attend pas ou pourrait être très attirante. Fait qu'il y a un peu ce double tranchant. Puis je pense que quand on apporte l'humour au niveau beaucoup plus de la description de poste puis des autres types d'approches où ce qu'on va aller vraiment plus dans une relation inbound, où on attire le candidat à venir vers nous plutôt que d'aller vers le candidat, on peut se permettre de façon un peu plus... j'essaie de me dire, j'essaie de trouver le bon mot, mais de façon stratégique. C'est où j'étais dans mon ancienne vie, par exemple, les descriptions de postes, il y avait cette notion-là d'essayer d'écrémer dès le départ. T'sais, si, par exemple, nous, on faisait du travail très sérieux, mais on ne se prenait pas au sérieux nécessairement. Fait que quelqu'un qui était tout le temps trop sérieux puis qui ne prenait pas les blagues puis que c'était comme inconcevable un milieu de travail où les gens s'amusent. Ben, on ne voulait pas nécessairement qu'il applique parce qu'il se serait pas senti à l'aise. C'est pas qu'on l'aurait pas accepté, c'est qu'il se serait pas senti à l'aise. T'sais. Fait que cette façon-là aussi d'écrémer, puis c'est ça le but du marketing RH, je pense, c'est d'être le plus efficace possible dans la gestion de ses budgets, de ses moyens en termes de recrutement. Puis ça veut dire d'avoir, par exemple, comme KPI, d'attirer les bons candidats. Parce que si tu passes ton temps à tirer juste tous les candidats, tu dépenses du temps, de l'énergie et de l'effort sur des candidats qui ne fitent juste pas de toute façon. Puis c'est pas nécessairement rentable. Tu brûles les bassins de candidats, puis tu te brûles toi-même comme recruteur. Fait que...
Totalement. Parler à tout le monde, c'est parler à personne au final.
Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça dépend de la réalité puis de où ce que tu te situes, puis par rapport aussi à si tu es une agence ou si tu es vraiment au niveau des ressources humaines dans ton entreprise, puis que tu es propriétaire de comment le message est diffusé versus si tu dois diffuser le message qui est externe à toi.
Mais j'aimerais bien qu'on creuse un peu ce sujet. Tu sais, on a pu parler là un peu des messages directs, messages d'approche. Mm-hmm. Tu sais, là où on fait plus transparaître un peu du personal branding, tu sais, genre qui mm-hmm. on est nous pour créer une connexion avec le candidat. Mais quand on est une entreprise, parfois ça peut être plus abstrait déjà de définir qui nous sommes et comment on peut approcher les candidats et donc comment on peut faire des affichages de postes. Mm-hmm. Quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui souhaite justement montrer plus ses valeurs, sa personnalité d'entreprise à travers ses affichages?
Mm-hmm. Non, mais c'est une bonne question, puis c'est une question qui vaut la peine d'être très réfléchie quand on prend l'intention d'écrire, puis tu sais, quand on parle de marketing RH, puis qu'on parle de copywriting, mais c'est des principes qui s'appliquent à la rédaction de l'affichage de poste aussi.
Totalement.
On veut que le message soit clair, direct, précis et attrayant pour les types de candidats et candidates qu'on veut attirer. Fait que de s'assurer dans un premier temps, tu sais, que le vocabulaire qu'on utilise correspond au bassin, à la culture de son organisation, à la sous-culture de l'équipe du département, à la marque employeur, puis que de savoir que ton affichage de poste, c'est pas une description de poste, c'est pas un contrat, c'est un affichage, c'est un moyen d'attirer des candidats à vouloir dire « ouais, moi, je vais travailler là-bas ». Après ça, quand tu vas passer en mode « ok, on signe des papiers, tout ça, contrat, ok, oui, la description de poste complète avec les tenants aboutissants, mais si ça n'a pas de valeur ajoutée dans l'affichage de poste, déjà, ça permet d'écrémer le message puis d'aller chercher les bons mots pour aller titiller l'imaginaire du candidat ou de la candidate, de dire « je me perçois et je me vois dans ce poste-là. Je me vois évoluer dans cette organisation-là au sein de cette équipe-là. » Fait que j'ai sorti une couple de petits mots-clés qu'on voit souvent. Puis que je pense qu'il vaudrait la peine de soit bannir, soit vraiment réfléchir avant de les utiliser. Ma première étant ma favorite, c'est « sous la supervision du gestionnaire de blablabla bla, bla, d'entrée de jeu ». Si je te dis ça, comment tu te sens, toi, Stan?
Moi, ça m'oppresse un peu.
C'est ça. Tu sais, c'est de dire, bon, ben, d'entrée de jeu, tu vas être sous la supervision de. Tu sais, ouais, il n'y a pas de valeur ajoutée. À ce moment-là, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de l'utiliser, cette phrase-là? Ben, c'est-tu soit de l'enlever complètement ou de dire, non, c'est vraiment important pour peut-être, je ne sais pas, l'attrait du poste, de savoir que, tu sais, en travaillant avec tel niveau de gestionnaire, la personne va apprendre telle chose. Ou, si la valeur ajoutée, elle est là, ben, c'est de changer le mot. Au lieu de dire sous la supervision du gestionnaire, c'est de dire en collaboration avec le gestionnaire, blablabla. Mmh. Fait que, c'est juste des mots comme ça, des fois, qui vont venir changer l'ensemble du discours. Quand on demande, par exemple, fournir l'ensemble des pièces justificatives pour démontrer que vous répondez aux exigences de l'emploi. T'sais, ça aussi, c'est comme très rapport de force côté de l'employeur. Hein?
Totalement, totalement. Donc, c'est toute une petite liste de mots à bannir, justement, en plus des mots qu'on a eu l'occasion de voir depuis des années, en fait, qui sont vraiment très ancrés dans cette culture RH de l'affichage de poste. C'est et ça. Donc, qui sont à, vu qu'en fait, simplement, le marché a changé, qui serait donc à changer ces différents mots aussi et qu'ils évoluent en adéquation avec le marché. Quoi.
Mais c'est ça, puis qui fit avec les valeurs, puis qui vont te donner vraiment l'impression que tu sais dans quoi tu t'embarques. T'sais. Puis quand on parle dans le parallèle, on a parlé des postes, par exemple, sous la supervision d'eux, ce qui implique, par exemple, que souvent, ça va être des mots comme... tâches effectuées. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre à part du mot tâche? Ben, on peut utiliser des missions, des activités, des responsabilités. Il y a plein de synonymes qu'on peut utiliser qui sont pertinents. Puis quand on recrute pour des postes de gestion, ben, on veut aussi faire transparaître c'est quoi la culture puis l'approche de leadership qu'on recherche chez la personne. Fait que si tu ressors dans ta description de poste le fameux PODC, planifié, contrôler, organiser, diriger, ça démontre que tu as une structure puis une gestion très rigide. Alors que tu pourrais utiliser des mots comme orchestrer, soutenir, faciliter, mobiliser, inciter. Fait que de revoir ces mots-là pour attirer les personnes qui vont fitter aussi avec la vision que tu as pour ton entreprise puis ta marque employeur puis où ce que tu veux l'amener. Grosso modo, c'est de dire, bon, ben, est-ce que ton affichage de poste te laisse un feeling de bas brun en polyester, alors qu'en dedans, vous êtes une gang de bas multicouleurs à orteils en coton bio, là, tu sais?
Là encore, on revient à la base, c'est toujours définir qui on recherche. Et tu sais, il n'y a pas de souci finalement, soit d'être très humoristique ou sinon d'être beaucoup plus rigide, du moment qu'en fait, la personne qu'on attire ben, est la personnalité qu'on recherche. Il y a juste un petit détail que je voulais revoir avec toi avant. C'était, quand on parle d'affichage de poste, on parle bien en fait d'affichage qui peut se retrouver sur LinkedIn qui ont pour objectif de ramener ensuite à une description de poste. On est bien d'accord là-dessus?
Eh bien, ça dépend de comment tu veux bâtir ton funnel de recrutement. Tu sais, c'est que si, par exemple, ton affichage de poste, ça va être, par exemple, ce que tu vas retrouver sur LinkedIn, oui, dans la section poste, ça peut être ce que tu retrouves sur Emploi Québec, sur n'importe quelle plateforme. La description de poste, elle, c'est ce qui sert à l'interne, c'est le profil de poste, c'est l'ensemble des responsabilités, puis la carte, dans le fond, le menu complet de ce qu'il y a à faire dans ce job-là, tâches connexes inclus. Mais l'affichage de poste, c'est le morceau que tu donnes au candidat pour qu'il comprenne qu'est-ce que l'employeur recherche, puis qu'est-ce que lui peut apporter, puis est-ce qu'il y a un fit entre les deux. Fait que de se dire que dans ton entonnoir, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le portrait complet du profil de la description de poste avant que le candidat ait été rencontré en entrevue, puis tout ça, ben peut-être pas. Peut-être que, tu sais, juste d'avoir les éléments les plus importants, tout ce qui pourrait être considéré comme un deal breaker, tu sais, de dire, bon, mais si ces éléments-là sont pas présents, c'est sûr que la candidature ne pourrait pas être prise en considération, mais tu sais, oui, c'est important de les mettre, ces éléments-là, mais dans mon funnel, je veux juste m'assurer que mon candidat, s'il arrive à partir de ma page LinkedIn parce qu'il y avait un post, il tombe sur les affichages de poste, puis qu'on veut appeler ça qu'il applique. Ben jusqu'au moment où ce qui applique, combien d'étapes est-ce que j'ai besoin d'avoir, comment est-ce que je m'assure d'être le plus simple et attirant possible, puis c'est quoi l'information que lui a vraiment besoin puis que moi, j'ai vraiment besoin de diffuser aussi. Mmh. Je ne sais pas si ça répond un peu à...
Si, je comprends, c'est un peu cette première impression, tout simplement, que le candidat va avoir de l'entreprise. Et donc, tu sais, on parlait de mettre notre personnalité, tu sais, que ce soit la personnalité ou les valeurs de l'entreprise dans nos messages, affichage de poste. On parlait donc de mettre notre personnalité en tant que personne à travers nos approches candidats. Et finalement, c'est quoi les bénéfices qu'on en retire à utiliser ces différentes techniques?
Bien, c'est un des premiers bénéfices, je pense, c'est que justement dans cette relation de rapport de force-là un peu, là. Puis c'est pas nécessairement un mot que j'aime utiliser, mais ça reste quand même assez évocateur, tu sais. Il y a une... La relation entre l'employeur puis le candidat, il y a un certain niveau de vulnérabilité de part et d'autre à dévoiler pour aller chercher un côté beaucoup plus authentique. Puis là, je m'explique en ce sens où, par exemple, une fois qu'on arrive en entrevue puis que c'est le temps de se dévoiler comme candidat puis d'exprimer un peu nos besoins, nos réussites, nos qui on est en tant que personne, bien, c'est difficile de faire ça si du côté de l'employeur, c'est très froid, rigide, non personnalisé, qu'il n'y a aucune vulnérabilité qui se trouve du côté de l'employeur. Puis, veux pas, c'est une relation qu'on développe. On développe une relation de partenariat et de confiance. Puis, on doit savoir si des deux côtés, on est capable d'aller apporter le meilleur de soi pour l'autre partie. Fait que dans une relation comme ça, si l'affichage de poste, si l'approche, elle est authentique et honnête, puis que on fait pas juste miroiter tout ce qui est beau et parfait et marketingement, là, j'ai inventé un mot, marketingement, mais tu sais, qui est politiquement correct au niveau du marketing, ben on sait, il y en a pas de compagnie parfaite, là. Fait que, où est-ce que tu vas aller comme entreprise? C'est quoi ton processus d'amélioration continue? Puis comment est-ce qu'avec le candidat, vous allez aller ensemble à cet endroit-là? Puis qu'il va y avoir une collaboration puis un lien qui va se créer. Fait que je pense que justement, au niveau de la vulnérabilité, c'est là qu'on peut aller miser. Puis le candidat, c'est important pour lui aussi qu'il puisse comprendre si lui, il sent qu'il ne fitera pas non plus. C'est, on ne veut pas non plus attirer pour avoir un taux de roulement dès le départ.
Je suis totalement d'accord. Merci énormément pour ton temps, Mélissa, et pour ces différents conseils.
Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, j'ai toujours plein de choses à dire sur le sujet, fait que n'importe quoi.
Au plaisir d'en discuter. Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast Écrire pour recruter. Si vous voulez suivre le contenu de Mélissa et approfondir le sujet de la marque employeur, n'hésitez pas à la contacter via son LinkedIn, Mélissa Saint-Louis. Si vous voulez en apprendre davantage sur le copywriting en recrutement et améliorer vos approches candidats, vous pouvez venir me parler via aussi LinkedIn, Stan Foley. Et surtout, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, allez suivre la page entreprise de Humanify. Merci encore pour votre écoute et prenez soin de vous.